9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Marie Portolano.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous entendre ici dans Culture Média. Vous êtes journaliste et présentatrice. On vous connaît comme grande spécialiste de foot sur Bing, mais pas seulement. En mars, vous aviez quitté Canal+ pour M6, mais juste avant, vous aviez réalisé ce documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » qui a provoqué une onde de choc dans le journalisme sportif et qui a connu un retentissement dans le monde entier. Je pèse mes mots. Mais vous voici donc sur M6 pour des divertissements, notamment un gros prime time en juin, on va en parler, mais aussi le meilleur pâtissier, mais aussi... Votre actualité immédiate, Marie Portolano, c'est ce soir. Le magazine 100% Euro en deux parties, avant et après le match France-Allemagne ou Allemagne-France, je ne sais pas comment on dit. Prise d'antenne à 20h25, on y verra quoi? Quel est le programme?
Alors, on y verra de l'humeur, on y verra des résultats, on y verra des interviews. Voilà, normalement, tout le cocktail parfait pour une émission de foot sera dans 100% Euro ce soir. En avant-match, on sera surtout sur les enjeux et sur, évidemment, sur l'équipe de France, les compositions, etc. Et en après-match, ce sera donc les interviews en direct, les réactions d'après-match. Et on essaiera d'analyser la belle victoire de la France 4-0 face à l'Allemagne.
4-0, j'allais vous demander le score. Vous m'avez précédé. Qui seront les consultants avec vous en plateau?
Alors, on aura Alain Bogossian, donc champion du monde 98, qui nous accompagne. Julien Cazard, qui est connu dans le monde du foot pour son humeur et son humour. Ouais. Et notre invité exceptionnel ce soir, ce sera Tony Parker, le champion de NBA. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. C'est vraiment, ça va être un beau plateau.
L'Euro, ça représente quoi pour vous, Marie Portolano?
Alors l'euro, je pense que ça représente comme pour moi, comme pour toute la France, là, cet euro-là, il fait du bien. En plus, je trouve que c'est drôle qu'il s'appelle l'euro 2020, alors ouais. Qu'on est en 2021. C'est comme si on nous rendait un petit peu de notre année volée,
mais exactement.
De notre année perdue.
Je vous pose la question parce que sur une vidéo du Huffington Post, vous donnez 6 bonnes raisons de suivre l'euro 2020 et la première raison m'a complètement scotché.
Première raison, pourquoi l'euro va être si important à suivre, c'est les bières en terrasse. Les bières en terrasse, les bières avec les potes.
C'est vraiment les bières en terrasse la première raison?
Alors, en plus, sachez que du coup, je suis obligée de revenir sur cette réponse puisque j'ai appris par la suite que les terrasses n'avaient pas le droit de diffuser
mais
les matchs.
Mais oui.
Donc, je trouve ça tellement dommage. Mais bon, je comprends évidemment les conditions sanitaires. Donc, les bières avec les potes, non. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important dans cet euro, c'est de se retrouver.
Mais oui.
Et je pense que ça va faire du bien aux gens de regarder des matchs de l'équipe de France.
J'avais voilà. Bien compris. Et samedi soir, c'était votre première. Vous avez regardé les audiences. Vous êtes contente de votre chiffre?
Alors, en fait, moi, comme c'est une nouveauté pour moi de regarder les audiences, je connais pas vraiment les attentes des chefs. Et d'ailleurs, je trouve ça super parce qu'ils m'en parlent absolument pas.
Ah, ils vous ont rien dit.
Non, ils m'ont pas demandé d'audience particulière. J'ai reçu un message de félicitations en me disant, c'est très bien, 1 million pour une PS2, c'est parfait. Donc, ouais. Ça me va.
PS2, ça veut dire deuxième partie de soirée.
Oui, pardon,
je peux vous assurer que vous allez battre votre record ce soir. Donc, on pourra le donner demain. Quelle différence entre votre approche sur M6? Est-ce que vous faisiez sur Canal+, notamment au CFC, le Canal Football Club? Ça sera moins technique?
Alors, ce sera moins technique forcément, puisque le public n'est pas le même. Le public de Canal+, est très exigeant dans les chiffres. Les gens qui viennent regarder les émissions de Canal sont des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le foot. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est assez agréable aussi. On pose des questions un peu plus grand public, on donne des chiffres un peu plus grand public et c'est tout aussi enrichissant.
Et vous avez dit, il y a une nouveauté, c'est que j'ai le droit d'être chauvine.
Oui, mais c'est vrai parce que moi j'ai l'habitude de cacher mes préférences puisque sur le championnat j'avais pas le droit. Là, je suis comme tout le monde. J'espère que la France va gagner.
Ouais, mais ça vient pas. C'est pas constitutif d'M6. C'est constitutif du fait que c'est un match international. Donc vous avez le droit de dire je suis pour la France. Contrairement au championnat, vous pouvez pas dire si vous êtes pour Bordeaux, Toulouse ou Marseille. C'est ça
tout
l'idée.
Tout à fait. Normalement, je fais partie du grand public, ouais. Enfin tout le monde est pour la France quoi.
Il y a un ton sur votre plateau, j'ai regardé l'émission de samedi, c'était le 12, avec vous en plateau il y avait Alain Bogossian comme ce soir, Julien Cazard comme ce soir, pas de Tony Parker, c'était Rio Mavuba samedi, et on va entendre Julien Cazard qui donne son avis sur l'équipe d'Allemagne et son sélectionneur.
Je trouve qu'il y a du talent, mais je vois pas de certitude, le fait de rappeler Müller. Ben, je trouve pas que c'est une grande victoire pour le sélectionneur qui avait voulu faire un peu table basse du passé, comme dirait un footballeur. Je dirais pas son nom.
Qui est-ce qui a dit faire table basse? Vous le savez ou pas?
Mais je crois que c'est Alain Mogossian, non?
Je sais pas, moi, mais ça m'a fait marrer. Table, donc on voit bien que c'est, on est là
ah,
aussi
non,
pour.
C'est peut-être Franck Ribéry, pardon.
Ah,
c'est
ah Franck il me semblait. Ribéry. Et la roue tourne va tourner, c'est aussi Ribéry.
Et voilà, exactement.
On voit qu'il y a de l'humour, il y a de la bonne humeur. Alors il faut dire qu'il n'y avait pas un enjeu considérable, puisque la France n'avait pas commencé, n'était pas entrée en lice. Parfois, il faut le dire aussi, c'est assez remarquable, c'est vous qui faites des interviews, Marie Portolano. Exemple, les deux latéraux de l'équipe de France, je dis ça pour les non-spécialistes, sont Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Ils jouent tous les deux au Bayern de Munich. Et vous leur avez écrit des questions que vous avez mises sur des fiches que chacun pose à l'autre. Exemple, c'est Pavard qui lance un défi à Lucas Hernandez.
Là, je vais te demander d'imiter Didier Deschamps.
Non. Alors... Non, non, je veux pas. Non, non.
Merci, attends.
Tu veux que je revienne plus en équipe de France ou quoi? Ok, vas-y. Bon, les gars, on est ici avec la banane. Hein.
C'est encore plus savoureux quand on voit l'image, parce qu'il imite la banane de Didier Deschamps, enfin le geste qu'il fait. Et Marie Portolano, et si Didier Deschamps l'avait mal pris? Parce que là, il y a quelque chose qui change. Vous êtes à la fois journaliste, mais vous êtes aussi la chaîne officielle M6 de l'équipe de France avec TF1. Et vous ne pouvez pas vous permettre de froisser le staff de l'équipe de France.
Alors, pour être très honnête, j'ai rencontré donc plusieurs fois Didier Deschamps, notamment lors de la liste, de l'annonce de la liste. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Mmh. Donc, vraiment, là, je vois pas comment il pourrait mal prendre ces joueurs qui, entre eux, pour rire, limitent un petit peu. Et encore, c'était pas méchant.
Ouais, là, c'était sans risque. Le 18 mai, puisque vous parlez de Didier Deschamps, je vais rester sur ce sujet. Vous avez débuté sur M6 avec un entretien conjoint en compagnie de Nathalie Yanetta pour TF1, du sélectionneur donc de l'équipe de France, Didier Deschamps. Et là, je vous cite, vous dites avoir vécu le moment le plus stressant de votre vie. Vous dites avoir été tétanisé. Pour quelle raison?
Ben, parce que déjà, il y avait un enjeu pour moi, puisque c'était ma première apparition sur M6. Mmh. Il y avait un enjeu pour les chaînes, puisque c'était la première fois historiquement que TF1 et M6 diffusaient la même chose au même moment. Mmh. Donc forcément, il y avait un double enjeu. Et puis... Et puis voilà, le sélectionneur, l'annonce de la liste. En plus, j'avais cru comprendre que donc Karim Benzema allait revenir, donc je savais que c'était un événement qui allait être beaucoup suivi. Et donc voilà, j'étais stressée quoi.
Bon, tétanisée. Vous avez fait une confidence à Vosges Matin, vous voyez que je lis vraiment toute la presse. C'était le 8 juin. Vous avez dit, c'est la première fois que j'étais à 100% maîtresse de mes questions et de la manière de faire. C'est-à-dire qu'habituellement, il y avait un rédac chef qui réécrivait vos questions ou qui vous donnait les siennes.
Non, alors qu'il réécrivait pas. En revanche, on avait beaucoup de on discutait beaucoup sur.
C'était validé. Vos questions devaient être validées
sur Canal. Voilà. Enfin, elles étaient. Je suggérais mes questions et généralement elles étaient acceptées. Là, ce que j'ai trouvé super dans l'équipe de M6, c'est que ils ont fait complètement confiance à mon expertise. Mmh. Donc ils m'ont dit, bah vas-y, fais ton interview. On la regardera ensemble et puis on verra si ça convient avec Nathalie Yanetta. Et en fait, on a été vraiment maîtresse de nos questions et c'était assez agréable.
Je trouve ça formidable, mais en creux, ça dit quelque chose, et je vais citer personne, et des chaînes où vous êtes passé, mais ça veut dire que pendant plus d'une dizaine d'années, on n'a pas fait confiance à votre expertise. Ce matin, Le Parisien vous consacre un article et vous demande, qu'attendez-vous de cette nouvelle aventure sur M6? Et votre réponse m'a surpris, vous dites, j'attends beaucoup de moi-même, j'espère être à la hauteur.
Oui, bah oui, j'espère être à la hauteur. C'est normal. Franchement, j'ai aucune prétention. J'arrive avec de l'humilité, moi. Mmh. J'ai envie de dire que bon, ben voilà, je vais servir aujourd'hui, ce soir. Déjà, c'est l'équipe de France qui est le point central de la soirée. Hein, c'est pas l'émission. Nous, on est là pour accompagner le téléspectateur et pour le servir. Mmh. Moi, j'espère que d'habitude, j'avais l'habitude de servir des spectateurs sur Canal. Ouais. Là, c'est un nombre un peu plus grand. J'espère pouvoir être à la hauteur et servir de mieux que je peux la France entière.
Cette humilité vous honore et cet esprit universaliste. Vous restez avec nous, Marie Portolano. On a encore plein de questions à vous poser. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la journaliste et présentatrice Marie Portolano, elle présente le magazine 100% Euro. Ce sera en deux parties. C'est ce soir, avant et après le match France-Allemagne, diffusé par M6 évidemment. La prise d'antenne, c'est à 20h25. Et ensuite, on vous retrouvera après le match. Quelle sera la programmation de 100% Euro? La programmation n'est pas encore fixée. Il y a un numéro ce soir, il y aura un numéro pour la finale. Et sinon?
Et sinon, on va suivre le parcours de l'équipe de France en espérant avoir le plus d'émissions possible.
D'accord.
Donc, en cas de qualification pour les quarts, puis pour les demi, on ajustera notre programmation à ce moment-là.
Double actualité pour vous ces derniers mois, Marie Portolano. Vous avez quitté Canal+ pour M6, je l'ai dit. Et juste avant de quitter la chaîne cryptée, vous avez signé un documentaire qui a causé un petit séisme dans le journalisme sportif et qui a fait parler de lui jusqu'en Australie et aux États-Unis. « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », c'est le titre. Documentaire dans lequel une vingtaine de femmes journalistes racontaient le sexisme ambiant, voire le harcèlement, voire les agressions sexuelles dans les rédactions et les chaînes de télévision. Un sondage a montré que 39% des Français ont vu ou entendu parler de ce film. Est-ce que vous attendiez à une telle déflagration ?
Très honnêtement, non, pas du tout. En lançant ce documentaire, j'étais un petit peu... j'avais peur de n'intéresser personne, en fait.
Ce qui est assez incroyable.
Parce que je me disais, c'est très entre soi, c'est très journaliste avec les journalistes. Et donc je me disais, bon, les gens dans les rédactions vont peut-être le regarder, mais je pensais pas effectivement que ça allait toucher autant de monde.
Quel rapport avez-vous eu, quel retour pardon avez-vous eu par rapport à ce film ? J'ai lu que vous aviez été contacté un peu de partout, de patrons de chaîne jusqu'à des ministres.
Oui, c'est vrai, des gens du gouvernement qui m'ont écrit. J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions aussi sur Twitter, de gens qui ont vu le documentaire. Je pense notamment à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a tweeté. C'était assez hallucinant.
Alors, il y a eu une affaire dans l'affaire à cause d'une interview de votre ex-collègue Pierre Ménès, que vous avez réalisé, mais qui n'a pas été gardée au montage, ce qui a été révélé par le site Les Jours, puis qui a été en partie montré dans Touche pas à mon poste. Je passe les étapes, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, le résultat est là. Pierre Ménès n'est plus à l'antenne du Canal Football Club. Comment, vous, personnellement, avez-vous vécu cet épisode ?
Moi, j'ai été assez gênée par la chasse à l'homme. Je déteste ça, en fait. Ce qui m'a gênée, c'est que Pierre devienne le symbole du sexisme en France. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est pas lui qui est responsable de tous les maux. Moi, je l'ai dit, je le répète ici encore, c'est que le système qui a permis ce genre d'agissement pendant des années, c'est ce système-là qu'il faut combattre. C'est pas une personne. Et là, j'ai évidemment peur que Pierre soit l'arbre qui cache la forêt et que beaucoup, beaucoup de gens se cachent derrière Pierre. Voilà.
Sur le site de Canal+, on ne trouve pas le replay de votre documentaire. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. En revanche, on peut trouver une séquence que vous aviez tournée pour La Boîte Noire, une sorte d'auto-promo. C'est titré « Marie Portolano présente son documentaire Je ne suis pas une salope ». Extrait.
Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je parle de ce documentaire à des amis, par exemple, la plupart me disent « Mais attends, mais tu sais pas, mais moi, dans mon milieu, c'est encore pire. » Donc, évidemment, ce que je veux faire maintenant, c'est faire d'autres documentaires sur d'autres corps de métier. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le documentaire « Je ne suis pas une salope ». Au revoir.
Ça, c'était sur Canal+. Désormais, vous êtes sur M6. Est-ce que vous allez faire d'autres documentaires sur d'autres corps de métier ?
Alors, pourquoi pas ? Je suis en train de réfléchir, voilà. Pourquoi pas ?
Et au passage, je voudrais saluer deux marques d'élégance. M6 vous a laissé faire la promotion de ce documentaire, qui pourtant venait de Canal+, alors que vous veniez de signer chez eux. Ils vous ont même encouragé à faire la promo. Et de l'autre côté, Canal+, n'a pas saisi le prétexte de votre départ pour M6 pour ne pas diffuser le documentaire. Je voulais que ce soit dit. On va parler d'M6. Vous avez d'autres projets sur M6. Un très gros prime le 30 juin. Ça va s'appeler La soirée extraordinaire. C'est un peu survendeur comme titre. Le sous-titre de l'émission est explicite. La musique, comme vous ne l'avez jamais vu, raconter le dispositif, Marie Portolano.
Alors, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu en France. Donc, c'est pour ça que c'est une soirée extraordinaire. C'est parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre de procédé à la télévision. C'est-à-dire que c'est une réalité augmentée. Tout le décor est en réalité augmentée. Donc, les artistes sont plongés dans une réalité virtuelle. Mmh. Et c'est vrai que vraiment... je me suis même moi prise au jeu en regardant les répétitions. C'est hallucinant. On voit vraiment un décor autour de l'artiste. On n'a jamais vu ça.
Qu'est-ce qu'on peut voir par exemple ? Qu'est-ce qui vous a bluffé ?
Alors, il y a une prestation de Vita et Slimane sur un échiquier géant qui est incroyable.
Ouais.
Une prestation de Julien Doré aussi, qui chante sur Mars. Kenji Girac qui chante sur une plage.
Ouais.
Mais on a vraiment le sentiment qu'ils sont sur la plage.
Kenji sur une plage, on aurait pu le faire. C'est pas comme Julien Doré qui va sur Mars.
Oui, bien sûr, mais on a tellement l'impression qu'il est vraiment en train de chanter sur une plage que c'est hallucinant.
Vous remplacez également Julia Vignali, désormais dans l'émission Qui est le meilleur pâtissier, grosse marque d'M6. Vous avez commencé à tourner en avril, c'est bien ça ?
Oui, exactement, je suis dessus d'ailleurs.
Ça se passe comment ? Vous êtes fan de pâtisserie ? Vous êtes bonne cuisinière ? Comment ça se passe ?
Alors moi, c'est drôle parce que j'étais très mauvaise sportive et je suis très mauvaise cuisinière.
Super.
Donc en fait, je travaille dans des domaines que j'adore regarder, que j'adore commenter, mais que je ne sais pas faire. Donc du coup, c'est parfait. Moi, j'écoute Cyril Lignac et Mercotte comme si c'était mes professeurs.
Voilà.
C'est génial.
Et vous avez tout goûté ou pas ?
Alors j'essaie de pas tout goûter.
Je me permets de poser la question.
Un petit souci.
Je me permets de poser la question parce que Julia Vigny est venue souvent dans l'émission. Elle a dit qu'il y a un vrai problème dans cette émission, c'est de résister à la qualité de ce qui est préparé.
Alors moi je goûte quand Cyril et Mercotte disent c'est fabuleux. Là, je me dis bon, je peux pas résister, donc j'y vais. Mais bon, voilà, il y a par exemple la première émission, il y a 14 gâteaux,
ouais.
Donc et deux fois, donc c'est beaucoup. Mais
ça fait 28.
C'est,
ça fait 28.
Incroyable.
Vous avez seulement
voilà.
35 ans, Marie Portolano, et dans le portrait que vous avez consacré Libé, c'était en mars dernier, vous dites au sujet de votre âge qu'à 35 ans, vous êtes, je vous cite, jeune mais bientôt vieille pour la télé. Vous le pensez vraiment ou c'est de la provocation ? Qu'est-ce que ça veut dire vieille pour la télé ?
Je ne vois pas ce qu'il y a de provocant d'en dire ça. Vous trouvez pas que c'est difficile de vieillir quand on est animatrice ?
Je ne le pense pas. Et à 35 ans, pour moi, on est jeune pour la télé.
Ah ben, pour moi, on est jeune à la télé, mais on commence à se dire que, bon, attention, on vieillit, quoi. Moi, c'est ça que je déplore aujourd'hui. J'aime voir les gens vieillir à la télévision, que ce soit les hommes ou les femmes.
Et vous regrettez qu'il n'y ait pas assez de femmes d'un certain âge ou à la télévision sur les antennes ?
Je le regrette pas, c'est juste que c'est vrai que... En fait, j'ai dit ça pour accompagner mon changement de vie. Je me disais qu'à 35 ans, c'est le moment pour moi de changer, d'évoluer et de faire d'autres choses. Je me suis dit, bon, si je le fais pas à 35 ans, je le ferai certainement pas à 40. C'est ça que je voulais dire, surtout.
Merci beaucoup, Marie Portolano. Je rappelle donc le magazine 100% Euro en deux parties, avant et après le match France-Allemagne. Je vous prédis, sans risque de me tromper, votre record d'audience de votre carrière. Le 30 juin, il y aura la soirée extraordinaire. Culture Média continue, il y aura Eva Rock, il y aura Chamerois, il y aura la chanteuse Joyce Jonathan qui revient avec les petites jolies choses. Son nouveau single et puis le grand retour du groupe Texas et les sorties cinéma de demain. Quel programme, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.